Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Adrien. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
De rien.
Alors, je t'ai invité car tu as lancé ta start-up qui s'appelle New & New. J'aimerais que tu nous en parles un peu.
Pas de souci. New, c'est un projet de crème solaire écologique et minérale avec un vrai engagement d'action environnementale en parallèle.
Comment tu t'es dit que tu allais te lancer là-dedans?
Ça fait 2 ans, 2 ans et demi que ça trotte et que ça travaille sur le projet. À la base, c'est un projet qu'on a démarré avec des amis plongeurs. Comme moi, je suis apnéiste depuis toujours. Grosse passion pour moi et ça a amené beaucoup de valeur justement là-dessus. Et avec ces amis-là, à l'époque, on avait constaté qu'il y avait cette énorme problématique des crèmes solaires et qu'il n'y avait pas de réelle alternative. Donc on s'est dit que ce serait pas une mauvaise chose de se lancer dans ce milieu-là, de faire notre propre produit qui correspondrait à ce que nous, on aurait voulu voir sur le marché à l'époque.
Et vous vouliez voir quoi sur le marché?
En fait, on voulait voir déjà de la cosmétique transparente, parce que c'est très compliqué des fois d'avoir des infos sur l'impact et la composition d'un produit cosmétique, et avoir des produits qui soient réellement engagés. On en avait marre en fait de voir, je dis des exemples tout bêtes, mais des petits labels 1% pour le corail, ce genre de choses, où au final derrière, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas s'il y a vraiment des choses qui sont faites. Ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir un équilibre entre la partie business et la partie engagement, et que tout ça soit au cœur de l'intégration du consommateur, et que les gens puissent même prendre part à ces actions-là pour voir en réel ce qui se passe sur le terrain.
Parce que sur le prix, il y a 1 € qui est reversé, c'est ça?
Du coup, il n'y a pas de montant.
Non,
On
pas de montant. Ah, je
a
croyais.
créé en parallèle notre propre ONG
Oui.
avec Corentin, avec mon associé. On a créé ça avec un groupe d'une dizaine de personnes qui s'appelle Octopus. Et cette ONG, en fait, c'est via cette structure qu'on fait nos actions environnementales. Donc, on travaille à la fois sur des projets de reconstruction d'écosystèmes, notamment sur le corail, et sur de la dépollution et de la valorisation de déchets marins.
D'accord. Ben, on en parlera après parce que j'ai des questions là-dessus.
Eh bien, allons-y.
Moi, je voudrais savoir si tu as toujours eu une âme d'entrepreneur ou ça t'est venu comme ça grâce à l'idée.
Non, j'ai toujours eu ça. Je crois que les premiers souvenirs que j'ai là-dessus, vraiment concrets, c'était quand j'avais entre 13 et 14 ans. Je traînais beaucoup avec un ami d'enfance avec qui on faisait un peu les 400 coups. Et on a retrouvé une vieille mobylette dans un hangar à vélo qu'on a commencé à bricoler. Mon père nous avait un peu aidé et on s'est rendu compte que ça valait de l'argent, qu'on pouvait ajouter un peu de valeur en bricolant des mobylettes. Et donc on a fait un petit commerce de mobylettes qui s'est transformé en commerce de motos et de pièces, et plus tard en commerce de voitures. Et j'ai fait pas mal d'autres choses à côté. Pendant mes études, j'ai toujours été beaucoup plus à développer et gérer des associations notamment, qu'à aller en cours et
Ah oui.
à faire acte de présence. J'ai toujours eu à la fois cet esprit un peu hors des cases, où j'ai jamais aimé être vraiment dans ce que tout le monde vend comme étant le parcours parfait. Et à la fois, j'ai toujours eu cette envie de faire bouger les choses et de créer un peu mon propre parcours. Donc non, c'est quelque chose qui a toujours été en moi.
Ouais. Donc ça vient pas comme ça en créant une idée.
Je pense que ça peut venir
Enfin, pour toi.
pour moi, ouais,
Non.
ça peut venir, mais pour moi, non, ça a toujours été le cas. Et justement, l'entrepreneuriat, c'est ce qui m'a permis de trouver ma voie, où j'ai jamais ressenti en fait, on va dire, de bien-être entre guillemets dans ma vie ou sur la partie à venir, parce que j'ai toujours été frustré de pas savoir ce que j'allais faire après, voire vraiment déprimé par ça. Et au moment où j'ai découvert le monde dans l'entrepreneuriat, où je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à penser comme ça et avoir l'impression d'être un peu en marge dans ma façon de penser et dans les objectifs de vie que j'avais, ça m'a fait vraiment du bien. Et c'est depuis ce moment-là où je suis épanoui dans ma vie, où je me sens vraiment épanoui et où je m'éclate.
Donc depuis New, on va dire que ça
C'est
a trouvé
ça,
un
ouais,
sens.
c'est ça.
Et tu faisais quoi avant New?
Avant New, alors j'ai fait des études en énergie. J'ai fait un bac technique en énergie. J'ai même plus le titre en tête,
Non, c'est pas
mais
grave, c'est un
voilà, en
détail.
gros, un
T'inquiète.
bac technique énergie. Après ça, un IUT en thermique et énergie
Ouais.
également. Après ça, une école d'ingénieur en environnement, où du coup, j'ai fait des études en coordination de projets environnementaux, en gros. Et après ça, du coup, j'ai lancé directement, je me suis lancé moi-même
Ouais.
directement dans l'entrepreneuriat.
Genre après les études, t'as lancé
C'est
ta...
ça, j'ai pris 6 mois de battement,
Ouais.
où à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Et donc, j'ai commencé à vouloir rencontrer un maximum de personnes comme moi. Et donc, je suis allé sur des salons, à des événements, à des apéros entrepreneurs, chercher juste à avoir un maximum de contacts et de retours d'expérience pour faire les bons choix du premier coup. En tout cas, un maximum de bons choix du premier coup. Et ça m'a beaucoup aidé de prendre ces 6 mois-là pour déjà trouver un rythme. Parce que se poser chez soi et se dire je vais bosser pour mon compte, ça se fait pas comme ça.
Non.
Et trouver un rythme de vie, trouver des contacts, trouver l'idée aussi. Donc, ça, ce qui est venu après. Et au final, au bout de 6 mois et quelques, c'était lancé.
Donc, tu as créé un réseau. Et est-ce que tu as eu les bonnes clés directement, comme tu voulais, ou pas ?
Pas pour tout, mais pour beaucoup de choses, ouais. Oui. Il y a beaucoup de choses où ça m'a bien aidé d'avoir des personnes, des amis que je me suis fait, qui m'ont fait des petites remarques sur des sujets qui peuvent paraître dérisoires, mais qui peuvent tout changer dans un projet. Et donc, ça a beaucoup aidé de faire ça, en fait, de prendre ce temps-là, de bien préparer juste son parcours entrepreneurial avant même de préparer son projet.
Par exemple, j'avais entendu pour New que à la base, tu avais l'idée de plusieurs gamme de produits ou juste la crème solaire,
enfin, non, c'était vraiment juste la crème solaire. Le solaire, en fait, c'est en cosmétique, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pratiquement. C'est entre la cosmétique et le médical. Mm-hmm. Et quand on fait du solaire, en général, vaut mieux faire que du solaire pour le faire bien, ou alors c'est que les produits sont bâclés. Et là, l'idée, c'était d'avoir vraiment une démarche complète à la fois sur le développement, la formulation, l'impact, l'engagement. Et donc, l'idée, c'était de vraiment de faire que ça, se concentrer à fond là-dessus, mm-hmm. devenir un leader du marché solaire pour ensuite se développer sur d'autres produits.
Parce que là, il y a la 30,
c'est ça, 30, la 30
et la 50 qui va sortir.
C'est ça. Là, en avril, on sort. Donc, on a fait un lancement en avril dernier sur la SPF 30 en monoproduit. Et là, cette année, on sort en avril également une nouvelle SPF 30, une SPF 50, 50 plus et un après-solaire.
Ah oui, ça a bien évolué. Hein.
C'est ça. Là, on fait une gamme complète pour offrir en fait ce que les gens attendaient, donc des protections encore plus élevées et l'après-solaire qui viendra compléter la gamme.
Donc on peut dire que tu n'as pas hésité en fait quand tu as à te lancer là-dedans.
Non, j'ai pas hésité et c'est en fait j'ai compris au moment de se lancer que en tout cas dans mon cas, la prise de risque était très importante. Mmh. Importante à la fois parce que c'est une grosse prise de risque, importante à la fois parce que sans prise de risque, je pense que le projet aurait pas pris autant d'ampleur et il faut prendre ce risque-là, ne serait-ce que le risque financier, l'investissement en temps, l'investissement personnel aussi, il y a beaucoup de choses qui change quand on commence à monter un projet comme ça. Et c'est vrai que c'était un passage presque obligatoire. Donc,
Parce qu'il y en a, ils hésitent beaucoup et ils attendent très longtemps. Il y en a qui se lancent, il y en a qui ne se lancent pas.
Ouais.
Donc, tu n'as pas eu de croyances qui t'ont limité à dire « Ouais, je ne m'y connais pas, pourquoi je le ferais ?»
Non, parce que... l'expérience personnelle que j'ai eue avant, notamment avec la mécanique, avec les mobilettes, et les choses comme ça, ou l'associatif, ou d'autres projets que j'ai pu monter, à chaque fois, et même dans ma vie en général, j'ai toujours cet état d'esprit de « je vais apprendre ». J'aime apprendre et je dois être capable de le faire. Et ça va de beaucoup de choses manuelles à même des choses plus intellectuelles, mais je me suis toujours donné les moyens d'apprendre quelque chose, de maîtriser quelque chose quand j'en avais vraiment envie. Un exemple tout bête, ça va être mon bac. Oui. J'ai jamais bossé pour mon bac, je détestais les cours. Je crois qu'en terminale, j'ai dû sécher 3 mois de cours sur l'année. Donc, c'était vraiment... j'étais le mauvais élève par excellence. Et 3 semaines avant le bac, je me suis dit, bon, il me le faut quand même pour qu'on me fiche la paix et que je puisse ensuite essayer de trouver quelque chose à faire de ma vie qui me plaît. Et donc, j'ai travaillé 3 semaines, mais 3 semaines sur l'année pour avoir mon bac en ultra intensif. Et je l'ai passé sans problème, quoi. Donc, voilà. Pour moi, il faut se donner les moyens.
C'est quand même du condensé, c'est quand même une prise de risque, en fait. Trois semaines sur...
Ouais, mais c'est, au final, c'est comme ça que je travaille parce que j'ai besoin... là dans mon métier de maîtriser énormément de choses et je peux pas me dire tiens je vais faire que de la compta ou que du développement ou du marketing et pour ça en fait j'ai besoin d'apprendre les choses très vite, de très vite les maîtriser et de très vite passer à autre chose. Et donc c'est un mode de fonctionnement que j'ai toujours eu, donc je me suis rendu compte en me lançant dans l'entrepreneuriat que c'était plutôt compatible.
Oui, voilà, je me dis tu fais peut-être pas, enfin par rapport au bac, il y en a qui sont meilleurs quand c'est vraiment en deadline, quand ils ont plus le choix. Bon, faut y aller.
Ouais, et puis, il y en a qui ont besoin d'un cadre aussi. Et moi, je supporte pas le cadre. Ouais. Dès qu'il y a un cadre, même si c'est quelque chose d'idéal pour moi, ça va me bloquer. Parce que j'ai besoin d'apprendre par moi-même et j'ai besoin de me planter, en fait. J'ai besoin de faire les choses comme je sens, avec l'expérience que je peux acquérir par moi-même. Et si je me plante, je change, j'apprends. Et si je me plante pas, tant mieux. Mais me forcer dans un cadre, c'est quelque chose qui a jamais marché, en tout cas.
Donc, pas salarié, quoi.
Ouais, clairement pas.
Pas possible. Ouais. Parlant de se planter, est-ce que tu as eu des échecs par
rapport
à peut-être New, tout ça.
Sur New, oui, il y a eu plusieurs échecs. On va dire le plus gros, celui qui m'a le plus marqué, c'est avec les banques. C'est très compliqué quand on est jeune, qu'on lance un projet innovant et quelque chose qui n'a jamais été fait, ou en tout cas où il n'y a pas vraiment de point de comparaison sur le marché, d'aller voir des banques et de leur demander de l'argent. Mmh. Et oui, ça a été un gros problème parce que malgré le fait qu'on ait le produit, qu'on ait un bon dossier bancaire, une garantie de prêt et tout ce qui allait, la banque à qui on avait commencé à travailler, que je ne vais pas citer parce que bon, on n'aime pas non plus cracher sur les gens, mais la banque avec qui on avait commencé à travailler, au début était très, très enthousiaste, et au final, le chargé d'innovation qu'on a eu a dit non, parce qu'il estimait que j'étais jeune, que je ne me rendais pas compte de ce que c'était que d'emprunter de l'argent, qu'il ne croyait pas au projet. J'ai quand même eu le droit par un chargé d'innovation à la comparaison avec une boulangerie, où le gars m'a dit une boulangerie, voilà, on peut voir si ça va marcher ou pas en fonction de la rue où c'est implanté, de ce que vous allez faire.
Rien à voir, en fait.
Ouais, rien à voir. Et je lui disais, bah, nous, on fait de l'innovation, on prend un risque, le prêt est garanti, il n'y a pas. Du côté de la banque, c'est du tout cuit, je veux dire. Et sachant qu'on a demandé 50 000 euros, ce qui n'est pas énorme non plus comme prêt de départ. Et pourtant, on s'est pris un non au bout de 3 mois à parlementer. Donc ça a été très compliqué. Gros retard dans les délais, commencé à être short niveau revenu. Donc voilà, ça a été un gros coup dur. Et surtout psychologiquement, d'avoir un non d'une grosse banque, pour nous, c'était dur. On s'est dit, mais en fait, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on fait vraiment les choses bien? Et au final, je me suis dit, je prends 2 semaines. Je fais un énorme benchmark. Je vais voir toutes les banques du coin. Et je leur propose le projet. Et en fait, on a eu un oui de littéralement tout le monde.
Ah.
Donc, c'était juste qu'on est tombé sur la mauvaise personne.
Il ne faut pas abandonner, quoi.
C'est ça. Et là, du coup, sur le moral, ça faisait vraiment du bien. Et c'est vrai que d'un coup, on se rend compte qu'on n'avait que... Pardon. On n'avait que 10% de, on va dire, de la situation à vue. Et qu'en creusant un peu plus, bah, tout allait beaucoup mieux dès qu'on s'écartait un peu de la petite zone dans laquelle on était, quoi. Donc voilà, ça, c'était un gros coup dur qui a au final été très bien rattrapé, quoi.
Mais t'es pas le seul à avoir de problème avec les banques, parce que j'avais interviewé Fanny et elle était restée sur une banque. Et après, elle s'est dit, je vais peut-être aller voir d'autres banques. Ouais. Et là, le prêt s'est présenté, en fait.
Et il y a aussi que, alors c'est horrible à dire, hein, mais des fois, on tombe sur des mauvaises personnes qui se sentent complètement puissantes par rapport à nous, parce qu'on est jeune, parce qu'on a besoin d'argent et parce qu'on est en demande. Et du coup, on a un banquier en face de soi qui est là à se dire... le petit jeune, j'ai droit à vie ou mort sur son projet, donc il fera ce que je veux. Dès qu'on commence à aller voir plusieurs banques, avant même d'avoir des oui ou des non, tout d'un coup, ils sont tout de suite en stress parce que ça passe de « je domine » à un petit porteur de projet à « il faut que je tienne tête aux autres concurrents bancaires et montrer que j'ai la plus grosse ». Et en fait, rien que le fait de dire « je suis allé voir plusieurs banques et c'est en étude chez eux », tout d'un coup, ça va tout de suite passer, changer un peu la donne. Et on peut même, c'est horrible, hein, mais moi, je conseille même de mentir là-dessus et de dire à un banquier qu'on va voir, j'ai déjà des oui d'une autre banque, je ne peux pas dire qui, mais...
Il faut bluffer.
C'est ça, mais je cherche juste une meilleure offre. Ouais. Là, tout d'un coup, ça renverse la balance. Donc,
ouais, parce que l'enjeu n'est pas le même.
C'est ça. Donc, il ne faut jamais se cantonner, je pense, à un seul contact. Même si on connaît la personne, même si on se dit que c'est la personne parfaite, il faut toujours aller chercher ce qu'il y a ailleurs au cas où il y a quelque chose qui plante.
Donc... Sinon, aucun regret pendant l'aventure, pour l'instant.
Il y a eu plusieurs choses, hein. Il y a plein de petites choses qu'on améliorerait. Après, ouais. Là, cette partie bancaire, ça a été le plus gros coup dur, on va dire.
Ouais.
Pour le reste, il y a plein de choses qui ont été anticipées par les conseils que j'ai eus. Ouais. Ça, c'est top. Et après, en fait, on a eu la chance de faire plein de choix qui ont été risqués, mais qui ont payé. Le fait d'emprunter de l'argent, typiquement.
Ouais.
Mais aussi sur le choix des partenaires, on a décidé de travailler avec beaucoup de gens qui se lançaient pratiquement en même temps que nous. Ben et Joe, notamment, qui sont nos designers. Marie-Elisabeth, qui est notre responsable communication. Loïc, notre avocat. Caroline, notre comptable. C'est que des gens qui ont 1 ou 2 ans d'expérience, à peine plus, ou qui se sont lancés limite en même temps que nous, où on s'est dit, ils se lancent dans un domaine qui est leur, mais ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas de recommandations. C'est juste qu'on les connaît, qu'on leur fait confiance et autant avancer ensemble. Et maintenant, en fait, on est une énorme famille. On se soutient tous les uns les autres. On est tous en train d'exploser et c'est génial. Donc, ça aurait pu planter quelque part. Ça n'a pas planté parce qu'on est entouré de personnes efficaces et qu'on adore. Donc, on a vraiment eu de la chance là-dessus. Mais on sait que c'est à la fois de la chance et à la fois une chance qu'on force un peu, mais qu'il y en a qui ont pas eu cet entourage-là. Et que souvent, un projet peut capoter à cause d'un petit détail et d'un mauvais contact. Donc,
Ouais, mais après, il fallait avoir le culot ou la force de réagir, la force de continuer. Enfin, moi, je pense que rien n'est fait, rien n'est joué, en fait.
Ah oui, clairement pas.
Des fois, il y a des choses qui arrivent, elles doivent arriver. Et soit on apprend, on se retourne et on avance, soit on arrête.
Ouais, clairement. Bah, c'est un peu la force du rebond et de l'agilité dans le milieu entrepreneurial. On va dire, au début de l'aventure, il nous arrive un coup dur, on se prend 2-3 jours, on n'est pas bien, on déprime, machin, et puis on n'a pas envie d'y penser. Là, maintenant, s'il nous arrive un énorme problème, ça nous arrive de temps en temps d'avoir des gros coups de pression, ça dure 1 heure, quoi, même pas.
Ouais.
On a le truc qui arrive et on est tout de suite en train de penser à une solution, à se dire il faut qu'on rebondisse, on va pas la perdre plus de temps. On sait qu'une journée perdue, c'est une journée perdue, et surtout qu'on se sentira mieux à partir du moment où on avancera. Et j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça pousse à se dépasser, ça pousse à être dans une attitude positive et une attitude de mouvement. Et on perd un peu cette espèce de réflexe d'autodestruction que beaucoup de gens ont, de se dire « je vais mal, il m'arrive quelque chose de mal, donc ça va être encore pire, et je vais aller picoler, je vais aller fumer, je vais rester enfermé chez moi, et je vais manger des trucs dégueux. » C'est con, hein, mais c'est un peu un réflexe qu'on a de se faire encore plus de mal quand on est mal, pour ne serait-ce que maîtriser un peu le truc qui nous fait du mal. Et on perd ce réflexe parce qu'on se rend compte que c'est pas efficace, et surtout quand on aime ce qu'on fait, on n'a plus d'intérêt à le faire parce que c'est plus intéressant de se reprendre en main et d'essayer de se challenger pour dépasser ça.
Après, je pense que c'est ta mécanique à toi. Il y a des gens, je sais, qui, des entrepreneurs, etc., qui battent pendant une semaine, voire un mois, en fait, c'est vraiment...
Ouais, mais après, ça dépend du projet. Je sais que nous, c'est des projets où...
le temps, quoi.
Ouais, on ne peut pas vraiment se le permettre. Si là, d'un coup, il nous arrive un coup dur et qu'on se dit, ouais, bon, on reprendra en fin février quand on sera
pas
passé.
Possible.
Non, après, ça dépend de l'ambition qu'on a. Si c'est un projet avec une petite ambition et que la personne est heureuse comme ça, elle peut peut-être se permettre de prendre du temps. Nous, on a une grosse ambition, on veut toucher un maximum de personnes et on veut vraiment changer les choses. Et pour ça, on n'a pas le temps en fait de se plaindre quand il nous arrive des coups durs. On a juste besoin de rebondir et d'avancer.
Parce que là, vous êtes déjà distribué. Il y a une boutique à Strasbourg.
Il y a une trentaine de boutiques en France. Ouais. Ouais. Et à Strasbourg, on va en avoir facile 4 ou 5. Mm-hmm. Et on est déjà distribué donc, sur Internet, plusieurs e-shops, boutiques physiques. Et on fait à partir d'avril un lancement en réseau pharmacie.
Ah, félicitations.
Merci.
Enfin, merci. C'est
un
bien,
très gros lancement en plus, donc ouais, ça fait très plaisir. Ouais.
Et ça n'a pas été dur de rentrer en pharmacie, sincèrement, parce
si,
qu'il y a des codes dans la pharmacie, je pense.
Il y a des codes et il y a surtout une grosse partie réglementaire, mm-hmm, où il faut vraiment montrer patte blanche sur la qualité du produit. Et oui, ça fait plusieurs mois qu'on est en négoce, mais on a la chance de travailler avec une équipe qui est juste géniale en face de nous, avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Et c'est quelque chose qui se fait vraiment main dans la main. Il n'y a pas ce rapport commercial ou autre. Et pour ça, c'est top. Donc même si c'est long et même si c'est compliqué, on le fait ensemble. Et ça nous permet de s'être fait presque des nouveaux amis sur ce projet-là.
Et c'est quoi? C'est une pharmacie ou c'est un groupement de pharmacies?
Alors c'est...
pour le début?
Il n'y a pas vraiment de terme. Mais en gros, c'est plus un revendeur qui revend directement aux centrales et aux groupements.
Ah, voilà.
Donc on devrait faire un lancement sur 250 à 500 pharmacies en France. Et le groupement total, le carnet contact total fait plus de 5000 pharmacies, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça devrait s'étendre au fur et à mesure jusqu'à cet été. Quoi.
Et juste pour montrer que tout n'arrive pas facilement, combien de temps vous avez mis pour rentrer en pharmacie? Enfin, combien de mois? Est-ce que je me dis... Est-ce que les gens, ils vous voient, ils font « Ah ouais, ils sont rentrés là, mais derrière
bah, ». Il y a eu
l'acharnement, etc.
Bah, deux ans et demi de préparation de projet, le lancement... 6 mois à plein temps à faire de la communication, à développer le projet, à préparer la nouvelle gamme. Ça fait presque plus d'un an que la nouvelle gamme est en préparation. Et tout ça pour arriver finalement au fait d'avoir des éléments concrets à présenter, que quelqu'un en face nous dise « bah oui, j'y crois et j'ai envie d'y croire avec vous ». Donc il y a beaucoup de préparation en amont pour en arriver là.
Oui, ça n'arrive pas... On a un claquement de doigts, c'est clair.
Ouais. Bah, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on voit souvent le côté positif,
voilà.
Une startup qui explose, mm-hmm, ça marche, c'est top, oh, ils ont trop de chance. Et derrière, il y a énormément, ouais, de travail. Là, ce week-end, on était sur un gros salon à Paris, le Change Now. C'était génial parce qu'on voyait plein d'autres entrepreneurs aussi dans l'innovation, l'écologie et ce genre de choses. On ne voit que des projets à succès. Mm. Mais quand on parle un peu avec les gens, on se rend compte qu'on a tous vécu un peu les mêmes galères, que ça fait tous beaucoup de temps qu'on est sur nos projets et que là, on est vraiment dans la phase de plaisir et d'expansion. Et les gens voient que ça, et il faut qu'ils voient que ça, il faut leur vendre un peu ce côté positif. Mais derrière, il ne faut pas oublier que quand on se lance là-dedans, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ou alors, c'est très rare.
Ça, moi, je sais que tout le monde parle de ce côté positif, et moi, je suis là pour rappeler que non, c'est un peu la galère. Ouais, c'est aussi positif d'en parler, parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, malheureusement, et qui, moi aussi, hein, j'arrive à être jalouse de certaines personnes, mais positivement, en mode, ah, ils me foutent la rage, comment ils ont fait et tout.
Il faut que ce soit challengeant, c'est sûr. Ouais.
C'est ça.
Bah après, ce qui est dommage, c'est qu'en France, on a une culture de l'échec qui est très dure. Quelqu'un qui redouble en France, c'est hyper mal vu. Moi, j'ai redoublé 2 fois. Mmh. Et à chaque fois, c'était un énorme échec, énormément de jugements. Quelqu'un qui rate un premier projet en France, plus personne ne va vouloir bosser avec lui. Il y a une culture de l'échec qui est horrible, alors que quand on va outre-Manche...
Mais c'est que français.
Ouais,
hein.
Ouais, c'est que
c'est
français.
C'est uniquement français. Hein.
Bah, ailleurs, les gens sont hyper enthousiastes de se dire « Ah, tu t'es planté combien ? 4, 5 fois, c'est génial, t'as plein d'expérience, donc maintenant tu vas cartonner. » Et en France, ouais, y a cette culture de l'échec qui est horrible, quoi.
J'aime bien faire partie des gens qui arrivent un peu à dédramatiser ça, mais...
C'est une très bonne chose, ouais.
On verra ce que ça donne. Et j'avais une autre question. Je voulais savoir si Le projet a été conçu sur un startup weekend ou pas?
Non, pas du tout. Non. On a une deuxième startup qui s'appelle Hildre, qu'on a monté justement avec l'atelier Ben & Joe. Ce projet-là, il vient d'un délire en startup weekend.
C'est les bières.
C'est ça, c'est des cocktails à la pression. Ouais.
Ah, c'était pas les bières au maté?
C'est, alors à la base, on voulait faire une forme de bière au maté. Ouais. Et c'est plus dérapé sur une nouvelle typologie de boisson où on est entre la bière, le cocktail, le prémix, sur une boisson naturellement énergisante et purement festive.
Et ça se goûte quand?
Ça se goûte à partir de avril-mai de cette année, avec un lancement festival aussi.
Moi, je serai là.
Pas de souci.
Là, tu m'as dit que tu avais un associé.
Corentin, oui.
Vous étiez les deux mêmes au départ?
Non, en fait, j'avais commencé avec mes deux amis plongeurs, ouais. Fleur et Valentin, où au final, on s'est séparés parce qu'on n'avait pas les mêmes ambitions et la même vision du projet. Et voilà, on est encore en très bon terme. Et Corentin, on travaille déjà ensemble sur d'autres projets avant, dont du commerce de voitures. On se connaît depuis qu'on a 3 ans, que voilà, on est meilleurs amis d'enfance. Et on s'est tout de suite réassociés sur ce projet-là parce qu'on est très complémentaires. Moi, j'ai l'aspect, on va dire, communication, médias, développement produit. Je suis beaucoup sur ces aspects-là. Corentin, lui, il n'aime pas du tout ça. Il n'aime pas être mis en avant. Et lui, il est très à l'aise avec la gestion, la logistique, la structuration. Et il aime bien rester en retrait et profiter de ça. Dans l'ombre. Et du coup, on est très complémentaires là-dessus parce qu'on a des affinités, des approches différentes du projet et du coup, ça permet d'être très complémentaires et de se challenger en permanence là-dessus.
Vous avez posé un cadre ou pas? Vous avez dit on communique, on fait ça, on est réglo, enfin, je sais pas.
Non, ça s'est fait naturellement.
Non, pas de cadre posé.
J'avoue que tous les gens avec qui on travaille, tout s'est fait très naturellement. On a rarement eu besoin de poser un cadre. Même là, alors, c'est tout bête, hein, mais Thibaut, le nouveau stagiaire qu'on a recruté, qui est d'ailleurs génial, on a dû faire quelques heures de brief sur le projet et je lui ai juste dit bah le projet c'est ça, si ça te parle tant mieux, sinon bah tant pis, mais il est venu là parce que le projet lui parlait et je lui ai expliqué les bases, voilà, comment se connecter sur la boîte mail et comment utiliser les logiciels qu'on utilise. Mais derrière ça, en fait, il est très autonome et tous les gens avec qui on travaille sont très autonomes parce qu'ils vivent le projet avec nous et on leur laisse de la liberté en fait dans la prise de décision pour justement qu'ils se sentent impliqués dedans. Et nous, c'est ce qu'on veut, en fait. On ne veut pas tout gouverner et tout diriger. Ce qu'on veut, c'est que le projet se construise en commun avec d'autres personnes, qu'il y ait une ligne directrice, mais qu'il y ait toujours de la liberté pour les gens avec qui on travaille.
Vraiment start-up, quoi. Pas entreprise comme on connaît.
C'est ça, avec des protocoles. Nous, on est très light là-dessus, quoi. Je pense que, en fait, pour moi, chaque personne a énormément de valeur, de qualité et de choses à apporter. Et beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Et dès qu'on leur laisse un peu de liberté, avec surtout des responsabilités, ça les pousse à se dépasser et à prendre conscience de justement de ce qu'ils ont en eux. Et c'est ça que nous, on aime voir. Et donc, si on peut l'apporter aussi, c'est top.
Ben, même au niveau... ils sont plus créatifs, les gens, quand on les laisse faire un peu comme ils le souhaitent. Et il y a moins de burn-out.
Ouais.
Et c'est plus facile à gérer, l'ambiance aussi.
Clairement, oui, clairement. Mais pour ça, c'est exactement ce qu'on veut, quoi. Et c'est vrai que pour tous les gens qui ont travaillé, c'est ça. On laisse beaucoup, beaucoup de liberté parce qu'on pense que faire confiance à quelqu'un, c'est pas se dire je vais bosser avec cette personne et la diriger dans ses moindres faits et gestes et elle va bien travailler parce que j'aurai bien dirigé et qu'elle a des compétences de base. Mm-hmm. Pour nous, non, c'est donner un cadre de départ, donner un objectif et laisser la personne y aller à sa façon. Et se dire que bah, si on l'a choisi, c'est pour sa façon de faire et pas juste pour ses compétences.
Oui, parce que quand moi, je bossais par exemple dans des entreprises, voilà, peu importe, on disait « Ah, c'est bien, t'as pas trop d'expérience, on va pouvoir te formater à notre image. »
C'est horrible d'entendre ça. Quel enfer. Oh là là.
Et toi, t'es en mode « Ok, c'est trop bizarre, mais... »
Quel enfer.
Oh ouais, là. Quand on dit ça, t'es en mode « Je suis pas un robot.
Ouais,
bah, c'est pas possible. »
Tous les stages que j'ai fait avant, c'était ça. Et à chaque fois, c'était une déprime permanente d'être dans des cartes comme ça, avec des dress codes, avec des obligations, des... Non, c'est un enfer, quoi.
Tu m'as parlé de l'ONG que tu as, c'est Octopus,
c'est ça, ouais.
Ça veut dire ?
Octopus, c'est-à-dire la pieuvre, en anglais.
Ah d'accord, oh punaise, alors je...
Il n'y a pas de souci.
Je me suis dit que je dois me remettre à l'anglais.
Le docteur Octopus dans Spider-Man, par exemple.
Pardon, excusez-moi, j'ai un niveau... Voilà, un peu horrible en anglais, on le sait maintenant. Vous êtes à quelle phase ? Donc, tu m'as dit que vous étiez en phase de...
Sur Octopus, on a lancé l'ONG, c'est déjà lancé.
C'était en décembre,
On a fait le lancement en décembre, mais le projet, on le monte depuis août dernier, depuis août 2019.
Et c'est quoi les projets? Vous nettoyez la Méditerranée?
Alors, on fait pas mal de choses. Octopus, en fait, c'est... Alors, pareil, c'est avec une amie d'enfance qui s'appelle Lola, qu'on connaît aussi avec Corentin depuis qu'on a 2-3 ans, qui elle est une spécialiste du droit de l'environnement et des océans et qui a beaucoup travaillé avec d'autres ONG avant. Et en fait, elle voulait monter sa propre structure. Et donc, quand elle a vu le projet New, elle s'est dit que ce serait cool de faire ça ensemble. Et donc, nous, on a tout de suite dit oui. Donc, on a monté Octopus avec... alors déjà, l'idée, c'était pour nous d'avoir séparé donc, la partie business de la partie engagement, d'avoir une structure vraiment dédiée à ça, sachant que l'ONG est indépendante et que New est simplement un des partenaires, parce qu'il y a beaucoup d'autres sociétés partenaires d'Octopus qui font du mécénat sur les actions. Et après, sur, l'ONG en elle-même, on a deux axes. Donc l'axe vraiment écosystème marin. On va essayer de recréer des écosystèmes marins avec des partenaires un peu partout dans le monde, en Grèce, en Indonésie, dans les Dom Tom.
Les coraux, c'est ça ?
C'est ça, coraux ou autres. Coraux ou autres, simplement même restructurer certaines zones marines désertes, remettre des structures marines, réimplanter différentes espèces pour aider la biodiversité à se recréer. Et après, on a un axe vraiment dépollution-valorisation où ça va être des grosses opérations de nettoyage, soit de plage, soit des opérations de nettoyage sous-marin, et avec de la valorisation directe des déchets. On fabrique pour ça des machines qui permettent de valoriser en direct les déchets plastiques. Et ces machines-là, on en installe en France, mais le but, c'est aussi d'en installer dans des coins du globe où il n'y a pas de filiale justement de retraitement.
Et ça se passe comment ? Parce que je me dis, l'ONG, il y a des dons, non ?
En fait, ouais, le New fait partie des entreprises qui sponsorisent l'ONG. Par des dons en nature, par du contact, par du réseau et par du don financier. Et en fait, ça permet derrière de financer la plupart des actions. Sachant que l'ONG, on l'a monté presque sur un modèle start-up, avec dès le départ un business model viable, où en fait, on fonctionne presque comme une agence de communication. Mmh. On propose aux entreprises qui veulent s'engager de financer des actions qui leur sont propres. Par exemple, on a une brasserie à Strasbourg qui va financer des machines justement de valorisation de plastique en Indonésie, à Lombok, sur une île un peu isolée. Et donc ces machines, nous, on les fait fabriquer, on les fait envoyer là-bas, on a des contacts sur place qui vont s'en occuper et valoriser tous les déchets qu'ils ramassent avec ça, sachant que nos contacts là-bas sortent entre 100 et 200 kilos de déchets par semaine. Donc c'est assez énorme. Et derrière, les contacts qu'on a sur place nous font du contenu média, vidéos, photos et autres, qu'on va remettre à l'entreprise et qui va pouvoir s'en servir pour sa communication. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est promouvoir la communication par l'engagement. Et arrêter le marketing pur et simple, d'essayer de vendre une voiture parce qu'on met une jolie fille dedans, ce genre de choses.
Le marketing un peu classique,
c'est ça.
Un peu patriarcal, on n'en dira pas plus.
Voilà.
Un mot pour définir quel type d'entrepreneur tu es ?
Quel type d'entrepreneur je suis ? Un serial entrepreneur.
D'accord.
Quelqu'un qui adore entreprendre, qui a beaucoup d'ambition et beaucoup de projets et qui ne se voit pas avec une seule société. On en a déjà deux en 2 ans, c'est déjà pas mal.
J'allais dire l'ONG. Combien ? Ouais, 3.
Bah, trois structures du coup. Et oui, j'aime créer des projets, j'aime les développer. Et pour moi, je vais pas dire une drogue, mais c'est hyper excitant justement d'identifier des problématiques et d'essayer de trouver des solutions. Et surtout, ce que j'aime, c'est le côté ultra humain. Où à chaque fois, il faut trouver en permanence de nouvelles personnes avec qui travailler, faire des rencontres, développer une synergie avec les gens. Et je crois que j'adore ça, je trouve ça génial.
Boulimique quoi.
Pardon ?
T'es boulimique ?
C'est un peu ça, ouais.
Mais comment tu fais pour gérer les trois projets ?
Alors, le secret, c'est de déléguer.
Oui, aussi.
Et de se dédoubler. Non, sur l'ONG, Lola est directrice, du coup, de la structure. Et on a d'autres personnes dedans qui nous aident et on prend des stagiaires. Sur Hildre, sur la boisson, pareil, on délègue beaucoup. On va sûrement recruter un gestionnaire de projet pour s'occuper du projet aussi avec nous. Et sur New, pour l'instant, on délègue aussi beaucoup de choses. C'est le projet dans lequel j'ai le plus de temps impliqué. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup de prestations qui sont faites en externe. Donc, ça nous permet de juste se concentrer sur le développement du projet et un peu la coordination.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de déléguer. Et
ouais.
On sait que c'est un peu la vie.
Oui, clairement.
Déléguer,
ouais.
c'est parfait, en fait, pour trouver des bonnes personnes.
C'est très compliqué parce qu'on a envie de tout maîtriser. Mmh. Et on se dit, si le truc est mal fait, ou qu'est-ce que je fais, ou si moi, je dois le refaire derrière. Et pourtant, il faut le faire parce que sinon, on ne s'en sort plus. Typiquement, nous, on refait notre site internet. Là, je suis en train de voir avec Thibaut, donc notre stagiaire, pour connecter la boutique en ligne avec notre banque et faire tout ce qu'il faut là-dessus. J'ai pas le temps de le faire, c'est lui qui s'en occupe, je lui fais confiance là-dessus, s'il se plante c'est pas grave, on le refera ensemble, mais quitte à ce que derrière moi je sache absolument pas comment il a fait, le but c'est que lui s'en occupe, qu'il ait la main dessus et ça me pousse encore plus à me dire il faut dans tous les cas que je sois le maître de stage parfait, qu'on reste en de bons termes et que plus tard, même s'il est plus stagiaire ici, s'il y a un problème, qu'il puisse revenir nous aider. Et voilà. Mais c'est sûr que plein de petites actions comme ça, on peut pas se permettre de tout faire et il faut justement pouvoir déléguer aux gens là-dessus.
Un site internet c'est compliqué. Comment on s'y connaît pas ? Par mon blog, j'ai mis 3 mois à le faire. Moi, c'était un WordPress. Je sais que vous avez un Wix.
C'est ça.
Ouais, c'est...
Ouais, le Wix, moi, j'ai mis... j'ai fait ça en 2-3 semaines, mais en intensif, pour tout construire. Donc, c'est un sacré boulot, ouais.
Alors, je voudrais savoir, quel est ton plus grand défaut ?
mon plus grand défaut, c'est de trop m'éparpiller, je pense. Ouais, justement de vouloir trop faire trop de trucs en même temps et d'avoir l'esprit qui vrille sur un peu tout. Et j'essaie de beaucoup me soigner là-dessus. Corentin, mon associé, m'aide beaucoup parce que lui me cadre énormément là-dedans. Et on a tous les deux ce côté où lui est trop cadré et moi pas assez. Donc on se tire mutuellement l'un vers l'autre pour se tirer vers le haut. Et je sais que moi je m'éparpille trop.
T'as fait le yin et le yang, quoi.
C'est un peu ça, ouais.
Et toi, t'as une autre idée de projet ou ça va?
J'ai d'autres idées de projets, on va pas se mentir.
On va pas les entamer maintenant.
J'ai plein d'idées de projets, mais bon, on va dire mon projet ultime, ce serait d'investir dans l'aérospatial.
Ah ouais.
Je suis un grand fan d'aviation, je suis en train d'apprendre à piloter et j'adore l'aérospatial. Je trouve ça juste fantastique pour moi, c'est la prochaine grosse aventure de l'être humain, même si c'est pas très écologique, d'aller justement explorer l'espace. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, donc ce serait le projet ultime.
On peut dire que t'aimes bien Elon Musk ou pas?
Ouais, j'aime beaucoup Elon Musk. J'aime beaucoup Elon Musk ou Jeff Bezos. C'est des personnes qui ont beaucoup de tort, mais qui, sur ces sujets-là, sont hyper ambitieux et font énormément avancer les choses. Et moi, je trouve ça juste passionnant. Et c'est un peu mon vice, on va dire, en tant que personne engagée, de m'intéresser à l'aérospatiale.
C'est contradictoire,
mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et d'un autre côté... La conquête spatiale en fait a débloqué énormément de technologies qui maintenant nous permettent quand même de réduire notre impact et d'améliorer notre quotidien, et je pense que ça va encore beaucoup être le cas, donc il y a quand même un vrai intérêt là-dedans.
Il y a comme quoi comme exemple? Les
panneaux solaires, les micro-ondes, beaucoup de types de l'alimentation, beaucoup de technologies de transmission de données. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées grâce au solaire et au solaire, grâce à l'aérospatial. et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense, parce que c'est des défis qui sont tellement surhumains d'aller envoyer des hommes dans l'espace que il faut adapter énormément de technologies. Et après, quand on retranscrit ça sur Terre, ça permet d'avoir des choses qui sont ultra efficaces.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ta boîte? Enfin, dans tes boîtes. Enfin, il y a un truc. Tu vas me sortir l'administratif, la compta?
Ouais, forcément, la compta, c'est pas le plus fun. Et encore, quand c'est ta compta, ça va. Un truc que je déteste faire.
En fait, c'est pas que tu détestes, mais si t'étais pas obligé de le faire, ça t'arrangerait.
Bah, comme dit la compta, je pense que j'ai hâte de pouvoir recruter soit quelqu'un qui puisse m'aider administrativement ou pouvoir déléguer entièrement ça à notre comptable, sachant qu'elle est en train de recruter aussi. Mais je pense que la partie administrative, c'est quelque chose qui bride beaucoup. Y a des gens qui adorent ça et c'est top. Mais voilà, quand on est vraiment dans la partie développement et créa, le fait de faire de l'administratif, c'est vite un frein, quoi.
Mais il y a des freelances qui font de l'administratif, si jamais ça existe.
Ça coûte cher. Ça coûte cher et pour l'instant, on n'a pas grand-chose à faire. Donc voilà, on ne va pas chipoter pour une ou deux heures par semaine. Mais,
ça va.
Mais bon.
Est-ce qu'il y a une anecdote un peu honteuse que tu as vécue?
Un peu honteuse?
Genre, tu t'es dit, ah non.
Pas honteuse, mais assez marrante. Elle pourrait être gênante, mais elle ne l'est pas du tout. Mais voilà, celle qui me vient en tête. Notre deuxième vidéo de lancement qu'on a faite, on a fait une première vidéo très soft.
Moi, j'ai vu la première. Je vois de quoi tu parles.
Mais voilà, tu vois la vidéo en noir et blanc, où je finis nu avec un globe pour cacher mes parties.
J'ai regardé, j'ai fait, il est sérieux, il l'a fait.
C'était très drôle. Et cette vidéo-là, en fait, on l'a tournée chez ma grand-mère, un soir à l'arrache, parce que c'était pour un gros concours national de start-up. Et on avait 2 jours pour faire une vidéo d'une minute, parce que j'ai vu le concours au dernier moment. Et j'ai appelé Ben et Joe en leur disant, les gars, il nous faut une vidéo, il nous faut une idée, un scénar, un truc. On a pondu ce scénario-là. On a tourné ça en une soirée avec le stagiaire de Ben et Joe, Aurélien, qui venait d'arriver. Ça faisait 2 ou 3 jours qu'il était en stage. Il a passé la soirée à me filmer à poil chez ma grand-mère. C'était assez énorme. Sachant que maintenant, il a été recruté par Ben et Joe. Donc, on travaille encore ensemble et c'est un très, très bon souvenir. Donc, voilà.
Il s'est pas dit, quel enfer.
Non, sur le coup, c'était assez drôle pour lui, ouais. Donc non, c'était ça, c'est, il y a pas de souvenir vraiment gênant ou malaisant. Je pense que ce souvenir là c'est le plus drôle et celui qui pourrait paraître le plus malaisant mais qui l'est pas, quoi.
Bah, dessus sur la sur la vidéo, c'est vrai que tu fais très t'as une voix, comment dire, assez suave, bizarre, j'étais un peu genre, j'étais gênée quand je regardais la vidéo.
c'était fait pour on voulait donner ce côté un peu décalé et... presque un peu genre crooner dedans, c'était hyper drôle à faire.
Ah ouais, mais ça fait, moi quand tu la regardes sur ton téléphone de trop près, moi je me suis gênée en mode, on dirait qu'il est à côté de moi en fait, c'est trop bizarre.
c'était énorme à faire, franchement c'était énorme à faire.
Il y a eu plein de vues.
Ouais, ça a beaucoup, et encore t'as pas vu sur ce que ça a été publié sur la page du concours, et on a eu énormément de vues aussi là-dessus.
Ah, c'est tellement décalé que ça a pu exploser en fait.
Bah en fait il y avait je sais pas 30 ou 50 vidéos qui ont été publiées sur ce concours. Et la plupart, c'était des vidéos facecam. Bonjour, je m'appelle machin, mon projet c'est ça. Et on s'est dit, mais jamais de la vie on fait ça. Donc il fallait un truc décalé et ça a plutôt bien marché. Ouais.
Non, mais complètement, là, vraiment. Déjà, t'as eu l'audace de le faire.
Ouais, il fallait le faire, ouais. Enfin, c'était super drôle la tournée, quoi.
C'est qui a eu l'idée de se mettre.
Joe, de Ben et Joe. Voilà, forcément.
Alors tu vas te mettre nu. Ok. Non,
mais et sachant qu'on a d'autres projets de vidéos où je finis encore nu, ça va être très drôle.
Elles vont marcher.
J'imagine.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné ? J'aime bien finir avec cette question.
Le meilleur conseil qu'on m'a donné ?
Ouais.
De forcer la chance. D'arrêter de croire à la chance et de croire en ma chance. D'aller justement chercher les opportunités, se bouger, sortir de chez soi. Et partir du principe que la chance, c'est une utopie, c'est un mythe, c'est une croyance. Mmh. Les choses se provoquent et même si on n'arrivera jamais à saisir toutes les opportunités qu'il y a autour de nous, en essayant d'en saisir un maximum, c'est comme ça qu'on en provoque. Et pour ça, il faut, comme dit, sortir de chez soi, rencontrer des gens, aller vers les autres et se bouger. Et c'est comme ça qu'on force vraiment la chance à venir vers nous, pas en restant chez soi et en se disant, bah voilà, il m'arrive jamais rien de bien, je comprends pas.
C'est sûr que si on reste dans le même mouvement, ça ne marche pas, rien ne change.
Non, mais c'est ça. Et pour ça, non, il faut vraiment juste bouger, quoi. C'est bête, hein, mais c'est toujours l'expression de... c'est un peu bateau, mais mieux vaut des remords que des regrets.
Oui.
Vaut mieux regretter d'avoir fait quelque chose que regretter de ne l'avoir jamais fait.
Et
c'est toujours comme ça, je veux dire, sur 10 trucs qu'on va tenter, il y en a peut-être 3 ou 4 qu'on va regretter et se dire, genre, putain, j'aurais pas dû le faire ou j'ai perdu mon temps. Mais si dans l'eau, il y en a un, où c'est l'opportunité du siècle et au final, ça débloque tout, bah, les 9 autres sont oubliés là-dedans, quoi.
Donc, on a fini ce podcast. Merci Adrien d'avoir participé.
Merci pour l'invitation.
Donc je te souhaite plein de belles choses.
Merci beaucoup.
Et j'ai hâte de voir le reste de tes projets.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera. Peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.